Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Nouveau jour, nouvel horaire. Nous vous donnons rendez-vous cette saison tous les samedis à midi. Les passionnés de musique retrouveront l'ami Jean-François Gisèle et la preuve par Z le samedi à 17h. Au sommaire du grand face-à-face aujourd'hui, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis place au débat. Emmanuel Macron est-il en train de devenir un président normal? L'été compliqué que vient de vivre le président de la République n'est-il qu'une mauvaise passe ou une véritable impasse? Et y a-t-il une crise dans le macronisme ou un simple effet médiatique? Notre invité pour en débattre dans une vingtaine de minutes, il est journaliste, essayiste, voix familière de France Culture, soutien d'Emmanuel Macron. Il avait consacré un livre au président philosophe. Brice Couturier nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Bonjour Natacha, bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et bonne rentrée, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Vous avez tout suivi de l'actualité estivale, affaire Benalla, affaire Booba. Vous êtes d'ailleurs plutôt Booba ou plutôt Caris, Raphaël?
Alors là, franchement, Langocha, je suis plutôt sans avis là.
Et vous Natacha?
Alors, je suis partisane de la décence commune, de la civilité, c'est-à-dire ce qui interdit de se comporter comme l'un et comme l'autre.
Bon, avant votre échange sur les grandes questions qui traversent l'actualité, un nouveau rendez-vous dans l'émission, c'est une semaine vue par les humoristes de France Inter. Et l'info de la semaine, c'était évidemment la démission de Nicolas Hulot qui a pris de court tout le monde dans le studio de France Inter mardi dernier. Daniel Morin en est témoin.
Notre ministre de l'écologie l'a dit ce matin, il quitte le gouvernement. Et où l'a-t-il dit? Il l'a dit sur France Inter, on l'écoute.
Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Réaction de Léa Salamé.
Vous êtes sérieux?
Enfin Léa. Mais ma fille. Mais bien sûr qu'il est sérieux. Tu t'attendais à quoi?
Vous êtes sérieux?
Mais non, je déconne. Un boulot à 9000 boules par mois, voiture avec chauffeur et pimpon à la Benalla, voyage gratos, Air France, SNCF. Bien sûr que je reste. Oh, si on peut plus déconner. Celle-là, des fois, je te jure. Eh ouais, France Inter, c'est ici que ça se passe, les amis.
Démission surprise, mais pas pour Tanguy Pascuro. Il a les explications et il les donnait dans la bande originale de Nagui.
Hulot avait prévenu Macron en fait qu'il ne voulait pas de lobbyistes. Il y en a, c'est le jus sur le poulet, lui, ce sont les lobbyistes. Donc il arrive à la réunion, se dit « je vais juste voir des chasseurs de base, donc des gens ivres ». Et là, paf, le canard sauvage, il voit Coste. Donc il demande à Macron ce qu'il fait là. Macron répond « je ne sais pas comment il est entré ». Il ne pouvait pas dire à Hulot « mec, je te prends pour une buse », parce que dans une réunion de chasseurs... c'est un coup à se faire flinguer. Donc il a joué l'innocent, alors que Coste était bien sûr le bienvenu à cette réunion morbide de tueurs d'oiseaux. En plus, comme d'habitude, Hulot a obtenu que dalle, alors que les chasseurs ont eu moins 50% sur le coût du permis de chasse. Et peuvent tranquillou tirer sur tout ce qui fait ou cuit, 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 ou non, papa, c'est moi, Kevin, ton fils, putain. Et éclater la faune à grands coups de balle.
Et bien sûr, déferlement de réaction après cette démission.
Je vois entrer dans ce studio une abeille, une carotte et un pingouin.
Ouais,
ouais. Retour parmi nous.
Ah ouais, ils nous ont rendu tout cassé, mais au moins il est revenu dans son écosystème.
Pour la première fois en 15 mois, il a atteint un objectif.
Ouais, et nous les abeilles, écoutez, on a fait une fête pour l'occasion, on était plein.
Ah ouais, vous étiez combien?
Bah on était 4 avec ma mère, c'était la folie. Et on n'avait pas été aussi nombreuses depuis 2008.
C'est à cause du glyphosate.
Non, moi c'est les néonicotinoïdes.
Ah mais vous vous rendez compte qu'hier matin, ça s'est passé ici, dans ce studio?
Et vous sentez ce parfum?
Ça sent quoi le glyphosate?
Mais non, du calme la carotte, ça c'est le parfum de la dignité.
Ouais bah profites-en l'abeille parce qu'on la sent pas souvent.
Ouais, en tout cas, son départ, ça fait un sacré bzzz.
Hein, un quoi?
Un bzzz.
Ah, un buzz.
Ah oui, non mais fallait les voir les deux, la Salamé de Morant, avec leurs yeux écarquillés, on aurait dit deux chouettes.
Eh, deux chouettes culottes.
Et vous avez évidemment reconnu les voix de Charline, de Nicole Ferroni et d'Alex Vizorek, mais cette voix aussi, vous allez la reconnaître.
Pour moi, vous savez, je veux pas être le commentateur des décisions des uns ou des autres. Bon, voilà.
Pas content. Pas content Sarko, Nicolas lui a pourri son moment culture. Espérons que ce ne soit pas le début d'une malédiction pour notre ancien président et qu'il ne sera plus interrompu par une actu brûlante quand il est invité dans une émission de prestige comme, je sais pas moi, le jour du Seigneur.
En ce jour du Seigneur, mes frères, je suis heureux de vous présenter un invité prestigieux. Nous avons la chance de recevoir Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour, je suis super content de vous recevoir.
Putain, c'est pas vrai, ça recommence. Interruption des programmes, priorité à l'info. On vient de l'apprendre, Jean-Luc Mélenchon est devenu fou. Le leader de la France insoumise, mécontent d'une question, a mis le feu à Jean-Pierre Pernaut. Tout de suite, on part en duplex à l'hôpital où séjourne Jean-Pierre au service des grands brûlés. Bien entendu, le jour du Seigneur spécial Nicolas Sarkozy est annulé.
Nicolas Hulot, donc sous la pression des lobbies, ce qui a vraiment énervé Pablo Mira jeudi dernier.
À en croire les médias et l'opinion publique, les lobbies sont partout. Ils achètent tout le monde et ça, je veux dire, Charine, ça m'énerve. Et quand je m'énerve, qu'est-ce que je fais, moi, Alex, pour me calmer? Eh bien, je mange du riz Oncle Ben's de chez Monsanto. Il est croquant et soufflé, le riz. Et puis, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que notre système politique fonctionne depuis toujours. Un député, par exemple, propose un projet de loi qui est adopté par l'Assemblée. La loi est ensuite étudiée au Conseil d'État. Un lobbyiste intercepte le projet de loi. Il prévient le membre du Conseil d'État qu'il sait où ses enfants sont scolarisés. La loi est rejetée. Ça s'appelle la démocratie, Clara.
Et le mot de la fin, on le laisse à Thomas VDB.
Et donc, les deux journalistes ont parlé d'un moment de grâce à l'antenne. Personnellement, je parlerais plutôt d'un moment de stress, en ce qui concerne. Hein, parce que c'est vrai que si on oublie un petit peu l'info principale, qui est donc qu'un ministre démissionne, pour se concentrer sur l'info secondaire, qui est celle qu'on va tous crever dans moins d'un siècle quand on fait n'importe quoi, je trouve ça juste un chouïa anxiogène. Un chouïa, vraiment un chouïa. Hein, limite, je pense que l'info secondaire a plus d'importance que l'info principale. Et c'est vrai que, vu la gravité de la situation, moi je comprends pas pourquoi le gouvernement ne donne pas des ordres plus drastiques sur le pétrole ou le plastique, les voitures ou les avions. Je sais pas, je me dis quand est-ce qu'on va commencer vraiment à interdire des trucs, mais pourquoi c'est pas maintenant? Genre, je sais pas, par exemple, t'as une voiture? Bah, tu vas en prison. Voilà, c'est peut-être un peu excessif, ouais. J'avoue, c'est excessif. Mais dans 15 ans, quand il fera 75 degrés à l'ombre, qu'on sera dans nos t-shirts avec des grandes, grandes auréoles sous les aisselles, à mon avis, on se dira, on aurait dû être un petit peu plus excessif.
Et c'était la semaine des humoristes de France Inter.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Place au duel et on va évidemment revenir avec vous Natacha et Raphaël sur cet événement qui s'est produit sur notre antenne. C'était donc mardi dernier, Nicolas Hulot était l'invité de Nicolas Demorand et Léa Salamé.
Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Natacha.
Ce qui est intéressant, c'est à quel point les humoristes que vous avez cités ont appuyé exactement sur ce qu'il y avait d'important dans cette séquence et celles qui ont suivi. La question des lobbies, définir ce qu'est un lobby, comment ça fonctionne. La question des réactions politiques derrière pour essayer d'étouffer ce moment-là, parce que c'est un moment de vérité. C'est un moment de vérité à la fois du macronisme et ses microbiens et de la politique de notre système politique et économique en général, et c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que c'est la question de la compatibilité entre ce système économique et la prise en compte des enjeux écologiques au sens le plus large. Et tout ça a évidemment été étouffé derrière l'idée que ce malheureux Nicolas Hulot est certes un homme sensible, peut-être un militant idéaliste un peu excessif.
C'est justement ce qui vous a fait réagir, Raphaël, qu'on ait psychologisé la décision de Nicolas Hulot.
Sidérante, les réactions qui psychologisaient la décision de Hulot.
Le renvoyant à sa déprime,
bien sûr, et s'interrogeant sur l'homme libre, peut-on faire confiance à l'homme libre? Quels sont ses tourments? Quels sont ses problèmes? Que va-t-il annoncer dans une semaine? Il y a une tendance aujourd'hui à fuir les problèmes politiques. La démission de Hulot, c'est un geste politique. Il dit, nous ne faisons pas assez, et je ne peux pas faire assez pour prendre la mesure du dérèglement climatique et de la catastrophe qui va arriver. Et donc, il pose un problème politique extrêmement profond. La question des lobbies, la question de l'absence de volonté, la question de la rupture avec les modes de production et de consommation actuels et le système dominant. Mmh. Et donc, il pose des questions politiques et on répond avec de l'analyse de psy de comptoir. C'est bien le signe, et c'est vrai que les humoristes avaient raison, on le dégage.
Qu'on est humain, trop humain aussi
mais non, mais
en politique.
Non, c'est aussi le signe qu'on réduit tout à quelque chose de petit, on réduit tout à de l'intime, on fait plus de politique en fait, on va raconter des histoires individuelles et on va s'exciter sur de l'analyse psychanalytique. Moi je pense qu'il y a une question politique, il y a une question de fond, il y a une question idéologique qui est posée par le réchauffement climatique et qui est soulignée par la démission de Hulot et que c'est cette question-là dont on devrait parler et qu'on devrait traiter et pas des états d'âme de X ou de Y.
Natacha. Oui, mais justement, nous vivons dans un monde médiatique où la psychologisation des questions politiques existe depuis longtemps. Certains appellent ça joliment le roman de la politique. On nous raconte des histoires de grands fauves qui se battent pour conquérir le pouvoir. Et en fait, c'est le plus sûr allié de la perpétuation du système économico-politique. C'est-à-dire que cette psychologisation, en effet, permet d'éviter de poser les questions et de vider de son sens ce qui s'est passé. Parce que quand on écoute réellement l'interview de Nicolas Hulot, il s'y dit énormément de choses. C'est une critique absolument radicale de l'espèce de mythe macronien de l'en même temps qui va permettre de contenter tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'effondrement de tout ce sur quoi a été fondée l'idéologie macronienne.
Pourquoi ?
Parce que c'était cette idée qu'on allait pouvoir contenter à peu près tout le monde par des compromis, en essayant de s'ouvrir à la modernité, de prôner la start-up nation et la perpétuation du néolibéralisme, mais qu'on allait le faire sur des bases qui sont des bases qu'on considérait comme modernes parce qu'elles étaient bien, à savoir un peu d'écologie. Et on s'aperçoit que tout cela n'est pas tenable, ce qui était une évidence. Et Nicolas Hulot
lui-même... c'est une évidence, on peut en débattre en l'occurrence.
Nicolas Hulot lui-même le disait avant d'entrer au gouvernement, notamment sur la question des traités de libre-échange. Il disait à l'époque que ça n'était pas compatible.
Raphaël.
La question, c'est celle du réchauffement climatique. Alors, c'est d'ailleurs le sujet dont personne ne parle depuis que Nicolas Hulot a démissionné, et il a démissionné là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du réchauffement climatique va nous conduire, si on la prend en sérieux, c'est-à-dire si on prend la mesure de la tragédie qui est en train de se dérouler, nécessairement va nous conduire à réviser cet individualisme, à comprendre qu'une société fondée sur simplement les logiques individuelles ne fonctionnera pas et mènera le monde dans le chaos. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses très simples. Ça veut dire qu'il va falloir restaurer la capacité de la puissance publique à prendre des décisions et à les imposer à des acteurs privés. Et ça va vouloir dire que un ministre de l'environnement ne peut pas être simplement une pièce rapportée d'un patchwork, d'un puzzle, mais le moteur
d'une dynamique. Il avait rang de ministre d'État, il était numéro
3
du gouvernement.
Oui, bien sûr, mais simplement, il devrait pouvoir superviser une transition qui implique tous les autres ministères. Donc ça suppose quoi ? Ça suppose une décision politique au sommet de l'État. Et cette décision politique, elle n'est pas prise. C'est pas parce qu'on fait des tweets qu'on la prend.
Ou elle est prise, au contraire.
Non, elle n'est pas prise. La preuve, c'est que Nicolas Hulot démissionne parce que, visiblement, il n'arrive pas à faire passer le quart de la moitié de ce qu'il devrait pouvoir faire passer.
Ça veut dire que la décision politique est prise mais dans l'autre sens. Elle est très clairement prise.
C'est-à-dire en l'occurrence, il n'était pas question seulement du réchauffement climatique, mais aussi de la chasse.
Mais de tout.
Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
La chasse est une goutte d'eau. Mais la question est surtout celle, en effet, de l'ensemble. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique. Et même, je pense que la focalisation sur le réchauffement climatique a été un instrument d'Emmanuel Macron pour essayer de faire croire qu'il agissait.
Alors, attendez.
Alors que la question des sols et de la biodiversité implique quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que là, on ne peut pas jouer avec un marché des droits carbone ou ce genre de choses. Donc, derrière, il y a la question de savoir si c'est la technique et l'économie qui vont sauver la planète, ou si, au contraire, c'est là le cœur du problème, et donc il faut essayer de réfléchir autrement. Donc il y a des implications qui sont extrêmement vastes. Simplement, quand Nicolas Hulot, par exemple, dit lors de cet entretien que les investissements sont impossibles dans le cadre, par exemple, de l'orthodoxie budgétaire prônée par le traité de Maastricht, là, vous avez le lien entre...
Il n'a pas exactement dit ça.
Ah si. Il a dit « L'orthodoxie budgétaire de Maastricht interdit les investissements parce qu'il les considère comme des dépenses et pas comme des investissements. » La phrase est quasiment celle-là, mot pour mot.
Écoutez, on vous réécoutera.
Vous réécouterez. Raphaël, et non, ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte qu'il y a une conception économique qui implique que l'on ne veut pas agir et que l'on ne veut pas changer,
mais
et que donc on est dans l'immobilisme
sans aller jusqu'à Bruxelles, il y a des décisions qui sont dans le cadre même de Maastricht tout à fait faciles à prendre en France.
Non, mais ça, on est d'accord.
Et qui ne sont pas prises. Prenez un exemple tout bête. On a exempté le kérosène de taxes. Donc les billets d'avion pour faire un trajet sont plus chers que des billets de train. Et il est de la responsabilité des États, c'est précisé par la Commission européenne, de décider ou pas de mettre une taxe sur le kérosène. Il y a des pays européens qui l'ont fait. Donc Emmanuel Macron peut le faire. Et il décide même là, par exemple, de ne pas le faire. Ou sur la
c'est
question
moins cher de
la
billets de train.
Ben, il y a des billets d'avion qui sont moins chers que des billets de train pour un même, voilà, parce que.
Non, c'est que vous disiez l'inverse.
Ah bon? Bon
ben, c'est pas grave, c'est un lapsus. En l'occurrence, on aura compris, donc, voilà, la démonstration.
Et c'est le retour des vacances. Mais, il y a des décisions extrêmement simples qui sont pas prises. Pourquoi elles ne sont pas prises? Parce qu'il y a absolument aucune vision d'ensemble sur la question de l'écologie. Et il y a un refus d'avoir cette vision d'ensemble. Et donc, pour Nicolas Hulot, je pense que c'était le moment absolu de prendre cette décision et d'être
donc
fidèle.
Donc vous avez salué cette décision.
Mais bien sûr, c'était un moment, moi je prends un moment de sincérité et d'ébranlement d'un système.
Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez salué son départ.
Bien sûr qu'on salue son départ, et il faut relire le pacte écologique qu'il avait rédigé en 2006, qui était d'une radicalité extrême, justement parce que ça prenait en compte tous les domaines, économie, urbanisme, mode de vie, etc. C'est tout ça qu'il faut faire.
D'un mot, il est irremplaçable?
Mais en fait, je suis désolé, mais c'est pas
le ministre de l'Environnement qu'il faudrait remplacer dans ce cas-là. Si on veut vraiment faire une politique écologique et mener la transition énergétique, on peut mettre la meilleure star mondiale dans un ministère quand il a des autorités au-dessus de lui qui n'ont pas conscience du danger, il pourra rien faire.
Pour avaler des anacondas, il est remplaçable par n'importe qui.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Ça se passe en Europe, semaine très tendue à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. Rassemblement d'extrême droite pour protester contre la politique migratoire d'Angela Merkel. Des ratonnades, des chasses à l'étranger dans les rues. Des affrontements entre des sympathisants de l'extrême droite et de la gauche radicale. Quel est votre regard sur ce qui se passe dans cette ville de Saxe, Raphaël Glucksmann?
C'est emblématique des tensions qui montent pas seulement dans cette ville de Saxe, mais partout en Europe. Et c'est un moment extrêmement dangereux. Aujourd'hui, encore plus qu'en France, il y a des pays européens où une majorité de la population devient ouvertement xénophobe. Et il y a qu'à voir le soutien largement majoritaire dont bénéficie Matteo Salvini en Italie depuis qu'il a été élu, depuis qu'il est entré au gouvernement. Et c'est un moment de bascule. Et face à cela, il y a une forme d'apathie collective. Les élites qui ont en main le destin de l'Union européenne sont incapables d'endiguer ce flot.
Mais ça vous avait particulièrement peur parce que ça se passe en Allemagne, parce qu'il y a évidemment
pas parce que ça se passe en Allemagne, ça me fait peur partout en Europe. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas surfocaliser sur la Saxe.
Oui, je pense qu'il y a, on va dire, des manifestations spécifiques suivant les pays, et en particulier en Allemagne de l'Est, qui fait partie de ces pays qui n'ont pas vécu la deuxième moitié du XXe siècle sous le même régime que les démocraties occidentales, et donc n'ont pas développé la même, la même ouverture, la même conception du respect de la dignité humaine, du respect de l'autre, parce que l'histoire n'est pas la même. Et que donc il y a un choc frontal entre cette aspiration extraordinaire de l'accueil des pays de l'Est dans l'Europe et le fait que il faut quand même faire coïncider ces deux histoires.
Mais là, on parle de chasse à l'homme.
J'allais y venir. En Italie, en Espagne également, il y a eu des épisodes il y a quelques années, et ça risque de se reproduire, qui étaient du même ordre. Simplement parce qu'on voit aujourd'hui, et on voit en Suède, un parti d'extrême droite qui était à 12%, qui est aujourd'hui crédité de 20% des voix. Bon, c'est-à-dire qu'on voit monter cela. Il va falloir, à un moment donné, répondre à cela en étant extrêmement ferme sur les valeurs qui sont les nôtres et qui interdisent ces horreurs et ces réactions xénophobes. Mais ce n'est pas en condamnant moralement seulement, en se contentant. Il faut condamner moralement, mais on ne peut pas se contenter de condamner moralement. Il faut aussi penser politiquement ce qui est en train de se passer.
Et qui se joue aussi autour de la question de l'immigration. C'est cette question de l'immigration qui est l'angle d'attaque des leaders hongrois, italiens. Vous citiez Salvini, on pourrait aussi citer Viktor Orban. Écoutez le Premier ministre hongrois, c'était mardi dernier.
Aujourd'hui, en Europe, Emmanuel Macron est à la tête des forces politiques qui soutiennent l'immigration. Et ici, de l'autre côté, il y a nous qui voulons arrêter l'immigration illégale.
Est-ce que l'Europe est en train de se fracturer sur cette question de l'immigration? Et il y a une forme de paradoxe quand on écoute Viktor Orban, c'est qu'il attaque Emmanuel Macron comme s'il était le défenseur d'une immigration incontrôlée, ouais, alors qu'on lui fait souvent le reproche inverse.
Non, ce qui est complètement faux.
En France.
Mais c'est pas simplement sur la question de l'immigration. En fait, il y a une immense fracture en ce moment au sein de l'Union européenne. Et il y a un certain nombre de dirigeants européens qui affirment rejeter à la fois les politiques migratoires de l'Union européenne, mais au-delà de cela, la démocratie libérale dans son ensemble. Et il y a un combat très rude qui s'annonce. Alors, ce qu'il faut faire, effectivement, comme le disait Natacha, c'est pas simplement avoir une réponse d'indignation morale, mais avoir une réponse politique. Parce que ce qu'il y a derrière, ce qui fait la force de ces dirigeants, c'est effectivement les failles réelles de la démocratie libérale. Et c'est là où on attend, en fait, Emmanuel Macron et les autres. C'est-à-dire qu'ils apportent une réponse, pas simplement, effectivement, une condamnation nette, ça c'est extrêmement important, mais ensuite une réponse politique à cette crise politique.
Penser les failles de la démocratie libérale, on n'en prend pas le chemin, puisqu'on voit très bien comment se construit cette espèce de jeu de rôle, dans lequel d'un côté on a Orban et Salvini qui se font la courte échelle de façon parfaitement hypocrite, puisque à côté de ça, Viktor Orban fait partie des leaders européens qui ont refusé la répartition des réfugiés que demande l'Italie, et de l'autre côté, on a Emmanuel Macron qui saisit au vol cette attaque parce que ça le sert, ça lui évite de penser les limites de son système économique. Les questions de protection au sens large, l'aspiration des peuples européens à la protection, c'est à la fois sur le plan économique et sur le plan culturel. C'est à tout cela qu'il faut répondre. Or, Emmanuel Macron, en se choisissant comme adversaire des personnages aussi caricaturaux, évite de se poser la question des dangers de son système économique et de la façon dont
on
il détruit tous les modes de vie et donc dont il nourrit l'insécurité culturelle.
Est-ce qu'il s'est choisi ses adversaires?
Après, c'est aussi ses adversaires qui l'ont choisi. Et c'est au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, parce que ici, on a tendance à toujours tout ramener à lui. C'est un problème qui date depuis la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que les démocraties libérales ont réellement cru à la fin de l'histoire, elles ont arrêté de travailler politiquement sur les problèmes et du coup, elles ont laissé monter dirigeants illibéraux, anti-libéraux, qui aujourd'hui, eh bien, font l'histoire, sont le moteur de l'histoire. Mais qui ont été élus, bien sûr, mais qui ont été élus précisément parce que les élites avaient arrêté de faire de la politique, qu'il n'y avait plus de réponse politique à des problèmes politiques, que si, effectivement, on n'est même pas foutu de ne pas psychologiser la démission de Nicolas Hulot, eh bien c'est sûr qu'on ne va pas répondre aux problèmes politiques que pose le temps.
Oui, à ceci près que, justement, en parlant de démocratie libérale au sens large, justement, là aussi, on passe à côté d'un des problèmes qui est posé. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, me semble-t-il, parce que cette question des démocraties libérales oublie le fait que les démocraties libérales à l'anglo-saxonne n'ont pas du tout la même forme et le même substrat politique que la République, par exemple, qui est une autre façon d'organiser la démocratie et qui est une façon sans doute moins libérale. Les démocraties libérales aujourd'hui sont de moins en moins démocratiques parce qu'elles sont de plus en plus néolibérales. Et que c'est ça le véritable problème.
Mais simplement, il y avait dans toutes ces démocraties du monde occidental un principe commun qui était le mélange de deux philosophies qui en elles-mêmes sont contradictoires, la philosophie démocratique, c'est-à-dire qui pose l'existence du peuple souverain comme un absolu, et la philosophie libérale qui sanctuarise l'individu et les droits de l'individu et les espaces privés. Et ben, c'est la rencontre de ces deux pôles qui faisait tenir nos sociétés. Certaines sociétés, comme la société française, étaient plus républicaines, plus démocrates que libérales, et certaines, comme les démocraties anglo-saxonnes, étaient plus libérales que démocrates. Mais il n'empêche, il y avait ce mélange des deux. Et effectivement, aujourd'hui, on a un tel déséquilibre qu'on a l'impression que, eh bien, ça ne fonctionne plus.
Oui, mais sans doute parce que c'est la faille démocratique qui se joue là. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis en place un système qui a laissé les peuples sur le côté et qui s'est assis sur leurs aspirations, sur leurs votes, et qui se fait économiquement au profit de multinationales, de puissances financières qui, elles, continuent à s'enrichir. Et c'est cette inégalité économique qui est en train de nourrir le sentiment qu'il y a une perte de souveraineté et qu'il faut la récupérer.
Le slogan du Brexit qui résume, à mon avis, tout les mouvements populistes en ce moment, c'est reprendre le contrôle. Et reprendre le contrôle, c'est un slogan d'aspiration démocratique.
Mais bien sûr.
Après, ça a des traductions absolument nauséabondes, mais à la base, c'est une aspiration démocratique. Et effectivement, une cité qui n'a pas le contrôle sur son propre avenir, eh bien, n'est pas une démocratie.
On va en rester là. Le grand face-à-face de France Inter continue maintenant avec le débat.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Mauvaise passe ou impasse pour Emmanuel Macron? Le macronisme est-il aujourd'hui en crise ou est-ce un effet médiatique? Un invité pour en débattre, journaliste, essayiste, voix familière de France Culture, auteur de Macron, un président philosophe aux éditions de l'Observatoire. Il a pris la plume cet été dans une tribune où il décrivait l'affaire Benalla comme un fait divers estival monté en mayonnaise. Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas militant La République En Marche, mais vous soutenez Emmanuel Macron. On peut le dire simplement comme ça ?
On peut le dire comme ça.
Vous y croyez encore ?
Ah, tout à fait.
Pourquoi ?
Je vais vous surprendre. Bah, parce que vous savez, comme dit Blanquer aujourd'hui dans Le Monde, il ne mange pas son pain blanc, il n'a pas encore complètement semé ses graines. Alors attendons la récolte.
Est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron est en train de devenir ce qu'on a appelé un président normal ? Il est rattrapé par des sujets d'importance inégale. Il est obligé de s'exprimer sur des sujets de politique extérieure depuis l'étranger, de se justifier lorsqu'il emploie par exemple une expression qui fait polémique, celle autour des Gaulois.
Oui, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'ils perdent la main et que le parti des médias reprenne le contrôle de l'agenda. Ça m'inquiéterait beaucoup, parce que jusqu'à présent, la grande force de Macron par rapport à ses prédécesseurs immédiats Hollande et Sarkozy, c'était précisément de garder la main, de garder le contrôle de l'information et de dicter l'agenda aux journalistes et non pas l'inverse. Je trouve assez sensé après tout. Ça m'inquiéterait beaucoup que le pouvoir soit en train de changer de main. J'ai confiance, je pense que ça ne sera pas le cas.
Le vent a tourné peut-être,
mais,
Raphaël.
Mais en l'occurrence, par exemple, quand Nicolas Hulot démissionne, c'est pas les médias qui fixent l'agenda. Et lui, en réaction à la démission de Nicolas Hulot, pour ne pas entrer dans une discussion de fond à ce propos, eh bien, sort une phrase qui, il le sait pertinemment, va déclencher l'hystérie des médias sur les Gaulois. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de diversion. C'est lui qui joue les médias. Là. En l'occurrence, ce qu'il faudrait, c'est avoir une grande discussion sans zapping médiatique suite à la démission de Nicolas Hulot sur le gros sujet politique qu'est la transition écologique.
Brice Couturier.
Écoutez, à se focaliser sur l'écume des vagues, on prive le public d'informations essentielles sur le sens des marées et le sens des courants. Moi, ce que je reproche beaucoup aux chers confrères, c'est un mélange à la fois de paresse, parce que ça demanderait du travail, par exemple, de regarder ce que c'est que le projet de loi de finances de l'année prochaine, d'incompétence, parce que ça demande là aussi beaucoup de compétences pour se faire, et puis une part de militantisme, parce que beaucoup de journalistes se prennent décidément pour des éditorialistes. Moi, je le suis, c'est le boulot que je fais, donc j'assume avoir certaines tendances, mais je n'aime pas que des journalistes nous fassent la morale en permanence ou nous donnent des leçons. Ils ne sont pas des directeurs de conscience, ils devraient être des gens qui éclairent l'actualité. Or, quand on se focalise sur des choses aussi banales que la démission d'un ministre, ou surtout, encore plus grave,
banal.
Oui, parce qu'après tout, il est remplaçable, vous savez, Nicolas Hulot. Et puis quand on disait tout à l'heure
que... C'est ce qu'il dit qui est intéressant et qui n'est pas banal.
Je pense, Brice Couturier, que en utilisant cette expression, le parti des médias, en fait, vous-même, vous courez le risque de vous focaliser sur les médias, les journalistes, en oubliant le fond, c'est-à-dire la politique, l'économie. Vous désignez ce parti des médias qui reprendrait la main. Mais ce même parti des médias, on peut considérer que pendant la campagne présidentielle, il applaudissait à la nouveauté qu'était Emmanuel Macron, encore que justement cette expression « parti des médias » ne me plaît pas, parce que je pense qu'il y a des diversités et qu'il y a des choix idéologiques parmi les médias. C'est simplement qu'il y a un mode de fonctionnement qu'on pourrait analyser, qui est celui de l'information perpétuelle, qui en effet peut monter en épingle des choses. Mais derrière ça, comment pouvez-vous dire que la démission d'un ministre est chose banale quand ce ministre est un ministre essentiel du gouvernement et quand il pointe quelque chose qui est la contradiction au cœur même de tout ce qui fait l'édifice politique d'Emmanuel Macron.
Brice Couturier.
Alors là, Natacha Polony, je vous retrouve, je suis d'accord avec vous, c'était une belle prise, puisqu'il avait été, il avait refusé sa participation.
Nicolas Hulot,
il avait refusé sa participation au gouvernement Sarkozy, au gouvernement Hollande. Il avait accepté, alors qu'il avait voté pour Hamon, il a voté Benoît Hamon, mais il a accepté de participer au gouvernement de Macron. Donc c'était une belle prise, je suis d'accord avec vous. Moyennant quoi, quand je dis que le parti des médias nous focalise sur des détails, je vais vous en donner un qui me paraît extraordinaire. Que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, personne soit obligée de justifier le fait qu'elle ait créé une mezzanine il y a 21 ans dans les locaux de sa maison d'édition Actes Sud, pendant que les Chinois sont en train de construire des villes entières, des smart cities intelligentes tout le long de la ville de leur route de la soie, ça me paraît très significatif de notre paresse intellectuelle française et du fait que effectivement nous ne savons pas ce qui est en train de se passer dans le vaste monde.
Je suis d'accord avec vous, au niveau paresse intellectuelle, en l'occurrence, là, on parle du réchauffement climatique. On ne parle pas de Françoise Nyssen et de son appartement ou de sa mezzanine.
Une partie des médias a tendance à parler beaucoup de ça. Vous avez remarqué ces derniers jours.
Oublions Françoise Nyssen. En ce moment, moi, ce que j'entends dans les médias, ça me convainc pas. Mais en tout cas, le sujet, lui, est important. C'est la question. De Nicolas Hulot démissionnant, pas en tant que personne, mais en tant que ministre en charge d'un sujet fondamental. Et disant quoi ? Disant qu'il y a un problème d'interaction entre des lobbies et la puissance publique, un problème d'absence de cohérence politique sur un sujet aussi essentiel que le réchauffement climatique. Et donc là-dessus, c'est pas l'écume des vagues, ça, c'est le fond de la mer. Là. Donc là-dessus,
il y a
un problème.
Oui, là, très mal. Mais laissez Brice Couturier vous répondre. J'aimerais d'ailleurs que vous définissiez un peu ce parti des médias, parce que c'est le même qui applaudissait Emmanuel Macron pendant la campagne et pendant le début de son quinquennat.
J'ai passé l'été dernier entier à lire la presse pour écrire le bouquin que vous avez mentionné tout à l'heure, un président, le président philosophe. J'ai passé mon été à lire la presse quotidienne et hebdomadaire tout au long de la campagne électorale. Je peux vous assurer que le moins qu'on puisse dire, c'est que le Parti des médias n'était pas du tout favorable à Macron pour une bonne raison, c'est qu'il est libéral et que le Parti des médias est fondamentalement anti-libéral, comme vous savez bien. Donc par conséquent, il n'était pas du tout populaire. En plus, il était légèrement...
Dominique Seux dans ce studio.
Je pense que même dans une radio comme France Inter, il y a des éditorialistes économiques dont on ne peut pas dire qu'ils soient franchement anti-libéraux.
On le salue d'ailleurs, l'ami Dominique Seux.
Je peux vous faire la liste des journaux qui ont soutenu Macron, parce que je l'ai...
Elle était
assez lourde.
Entre les deux tours,
quand on a le choix entre Marine Le Pen et Macron, le Parti des médias, effectivement, avait fait son choix. Mais avant le premier tour, c'était loin d'être le cas. Mais pour revenir sur l'écologie...
Ils ont été quand même plus sympathiques envers Macron qu'envers François Fillon ou Benoît Hamon. Enfin, moi, c'est le point de vue que j'ai.
Je suis très sensible à ce que j'ai lancé cette expression Parti des médias dans une interview il y a quelques temps, il y a deux ans au Figaro, et j'étais très surpris et amusé de voir qu'elle est reprise par Mélenchon, qui dit parti médiatique. Et il a raison, parce que regardez le Parti des médias.
Il a raison.
Mais bien sûr, le Parti médiatique est très hostile à Mélenchon aujourd'hui, regardons les choses en face. Ça n'a pas toujours été le cas là, par contre.
Alors, c'est finalement la continuité de ce que Jean-François Kahn, à une époque, avait appelé la pensée unique, ce qui ne signifie pas que tout le monde écrive exactement la même chose ou pense exactement la même chose, mais disons qu'il expliquait à l'époque, et je pense que ça reste vrai, qu'il y a une forme de vulgate, mais je ne la situerai pas exactement comme vous, dans une majorité des médias qui est à la fois progressiste sur le plan sociétal et libérale sur le plan économique. Mais libéral, pas au sens où vous l'entendez. Et encore une fois, on voit là qu'on ne peut pas débattre politique, parce qu'au fond, là, on est en train de parler politique. On ne peut pas débattre politique si on ne s'entend pas sur les mots. Qu'entendons-nous exactement par libéral ? Les plus libéraux des analystes considèrent...
Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une pensée unique ou d'un parti des médias, en fait. Sur le fond,
je termine sur la question du libéralisme, parce qu'elle est au cœur, en fait, de tous nos débats, et aussi de la démission de Nicolas Hulot. Cette question du libéralisme. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre j'allais dire microéconomie et macroéconomie. Nous sommes dans un modèle néolibéral, c'est-à-dire un modèle reposant sur la dérégulation, sur le libre-échange et sur l'extension de l'ensemble des flux.
Et j'aimerais qu'on revienne à Emmanuel Macron, Natacha.
D'accord, mais justement, Emmanuel Macron accepte ce modèle et il entre en contradiction avec la défense de l'environnement. Ça ne peut pas marcher.
Tant que notre pays sera le champion d'Europe de la dépense publique avec 57% du PIB, ça c'est pas libéral, excusez-moi.
Non, mais ça n'est pas contradictoire. Si, c'est ce que je vous expliquais. Nous sommes quand même néolibéraux.
Mais on ne peut pas être libéral quand on a 57%. Quand l'État dépense 57% de la richesse produite dans un pays, quand l'État français est le champion du monde de la taxation et de l'imposition.
Ça, je parle de néolibéralisme.
Donc, on n'est pas du tout dans le libéralisme. libéralisme, on lui tourne le dos, évidemment.
Alors, Guzman.
Très bien, moi je veux bien parler après du libéralisme, mais d'abord, moi là où je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, c'est qu'il n'y a pas en France de parti des médias, il n'y a pas en France de pensée unique, c'est faux. Et regardez, il y a comme ça des atmosphères culturelles dans des sociétés où les gens sont plutôt sympathiques envers Emmanuel Macron, puis ensuite commencent à douter, mais ça c'est l'opinion française dans son ensemble. Mais enfin, comment on peut dire que le parti des médias, comme si ça existait, aurait été hostile à l'homme qui a été façonné, il n'avait même pas de parti, qui a été façonné par les couvertures, qui a été façonné, et lui-même le dit. Il dit, mais si je fais la couve de match, c'est pas parce que c'est mes copains, c'est parce que je vends. Oui, probablement, c'est parce qu'ils vendaient. Mais donc, ils ont fait Emmanuel Macron. Il n'y a pas un parti des médias. Il y a des médias qui sont tous en guerre pour faire la plus grande audience et qui donc veulent épouser l'air du temps. Et en épousant l'air du temps, le renforcent. Mais c'est pas du tout un parti organisé. La preuve vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Pendant un an, on a eu un défilé de courbettes à Paris. C'était à qui serait le plus laudateur envers Emmanuel Macron. Effectivement, l'atmosphère s'est retournée et cet été, beaucoup de gens qui se sont beaucoup agenouillés ont ensuite envoyé des tacles. Mais c'est bien la preuve.
À juste raison, pas.
Mais parce qu'il faut une presse libre qui soit critique. C'était une situation un peu intenable quand même. Pendant un an, on avait trop d'estime et de respect pour ce jeune homme et ce jeune président.
Non, c'est vrai qu'il y a eu, dans un premier temps, une espèce de charme, de charisme dû à la jeunesse, au dynamisme et au fait que c'était quelqu'un qui disait qu'il allait renverser les tables. Le problème, à mon sens, c'est que jusqu'à présent, je vois pas beaucoup de tables renversées, très honnêtement. Moi, la révolution libérale pour laquelle je misais sur Macron, pour l'instant, je l'attends encore. Voilà, pour tout vous dire. Mais j'espère qu'elle viendra, évidemment. Parce qu'on peut pas continuer comme ça dans un pays vieillissant, complètement arriéré, pendant que le monde entier est en train de bouger à une vitesse folle. Vous parliez tout à l'heure de décroissance et de hulot. Vous savez, en Chine, le principe de précaution n'existe pas. 1,4 milliard de Chinois n'ont pas du tout envie de connaître la décroissance et ils pensent, eux, que la préservation de l'environnement est compatible avec le progrès économique et avec le développement des technologies. Et apparemment, ce n'était pas le cas de Nicolas Hulot, puisque la seule chose qu'il est arrivé à faire, c'est empêcher Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes qui était décidée il y a 30 ans et qui avait été approuvée et par les élus locaux et par la population sous forme de référendum. Joli succès.
Mais j'aimerais qu'on en revienne à ce qui se joue aujourd'hui.
On peut pas citer la Chine comme exemple déjà d'une politique environnementale conséquente, parce que déjà c'est faux. Et en plus, ils sont en train aujourd'hui de prendre conscience du problème et justement de revenir sur cette folie technicienne.
Vous croyez qu'ils vont pas faire 10% de croissance cette année?
On pourrait ajouter un point juste
à la question que je posais tout à l'heure.
Mais juste une chose. D'abord, Natacha. Quand même, ce terme décroissance ne signifie pas la récession. Il faut à un moment donné
dites
définir
ça aux Chinois, aux
les
Indiens, on va voir s'ils vont accepter
la
votre...
décroissance. Ce n'est pas le sujet récession. Du jour, la Natacha. Récession, c'est quand un système fondé sur la croissance économique est en train Natacha. De s'abîmer et ne fonctionne plus. La décroissance, c'est autre chose. On ne pourrait
J'aimerais
en parler,
en
mais il ne faut pas mélanger tout.
Au macronisme, à savoir s'il est effectivement en crise ou si c'est un effet, un vacarme médiatique qui en donne l'impression. Mais... cet été, par exemple, l'affaire Benalla, et je citais votre papier que vous aviez publié dans Le Parisien, c'était pour vous quelque chose de totalement excessif. Ça n'était en rien une affaire d'État comme,
Philippe Prénaud,
le journal Le Monde.
Philippe Prénaud avait dit c'est une affaire d'été et pas Philippe une affaire Prénaud. D'État. Il avait raison, Philippe Prénaud, c'est tout à fait ça. Non, on a monté en épingle un fait divers pas très révélateur. Si révélateur de quelque chose, c'est que le président de la République a peut-être pas confiance suffisamment dans son service de sécurité fonctionnalisé et qu'il est obligé de faire confiance à d'autres personnalités.
En effet, c'est
ça.
C'est inquiétant.
Mais donc, l'affaire Benalla, c'est Nicolas Hulot, tout ça c'est de l'écume médiatique pour vous, ce n'est pas essentiel.
Mais oui, parce que écoutez, si les journalistes faisaient leur boulot, je suis désolé, ils nous diraient les faiblesses de ce projet de loi de finances pour le 2019.
Ils le font aussi.
Mais non, ils le font pas du tout. Ils nous parleraient du tournant que Macron est en train de prendre en politique étrangère devant le discours qu'il vient de faire devant les ambassadeurs. Très important ce qu'il a dit sur la Russie. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas d'analyse, il y a une paresse intellectuelle totale. Par contre, dénoncer Françoise Nyssen pour sa mezzanine,
ça c'est formidable. Revenez pas, Françoise Nyssen, on parlait de Nicolas Hulot.
Ça va faire les gros titres. Non, écoutez, franchement, c'est pathétique.
Raphaël Guzman. Là, je pense que vous êtes volontairement superficiel dans votre analyse de la crise macronienne, parce que vous voulez le défendre. Mais en fait, son grand problème, c'est qu'il va falloir qu'il choisisse entre vous et l'autre part du « et » en même temps. C'est-à-dire que le problème de ce qui a extrêmement bien marché en campagne électorale, dans cette volonté d'effacer les clivages idéologiques et de les dépasser en nous vendant le « et en même temps », au moment de l'exercice du pouvoir, au bout d'un an, on se rend compte que ça bloque. Et c'est ça qui produit la démission de Nicolas Hulot, c'est que finalement, on peut pas faire une chose et son contraire. Voilà, il y a un principe, c'est extrêmement simple, ça s'appelle le principe de non-contradiction. Alors, je sais que c'est pas très cool comme référence, mais c'est très ancien et c'est très vieux monde. Ça remonte à la Grèce antique et c'est la base de la philosophie. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire A et B quand A et B sont contraditoires. Et donc, voilà.
Parce aujourd'hui, que Raphaël, il y a une clarification. Vous datez de l'ancien monde où il y avait la gauche et la droite. Aujourd'hui, on est dans un autre monde.
Mais non, mais à l'époque d'Aristote, il n'y avait pas vraiment la gauche et la droite.
Aujourd'hui, le vrai clivage, celui que vous avez dit tout à l'heure au cours de cette émission, c'est entre les souverainistes et les progressistes. Entre les libéraux qui croient encore au monde multipolaire et à la construction européenne et ceux qui n'y croient pas et qui croient au retour des frontières. Et là, il est très, Macron, il est très clair. Il est le chef de file des progressistes
Et donc, si on croit à une construction comme l'Union européenne, nécessairement, ça veut dire qu'on croit aussi qu'il faille supprimer les APL, supprimer l'ISF. Non, je ne pense pas. Je pense que la situation est toujours plus complexe.
Si l'ISF n'existe nulle part en Europe, on ne voit pas pourquoi on l'aurait maintenu.
J'ajouterai une chose, c'est que tout à l'heure, dans la conclusion de notre débat, Raphaël, les derniers mots que vous avez prononcés étaient pour expliquer que reprendre le contrôle, c'était une aspiration démocratique. Mm-hmm. Ça s'appelle une aspiration à la souveraineté. Ouais. Donc, que signifient les souverainistes? Parce que, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Et ça n'empêche pas de croire qu'il faille que des pays s'associent. La question est de savoir sous quelle modalité l'Union européenne, peut respecter les souverainetés. Ça dépend comment elle est construite.
La souveraineté n'est pas nécessairement la souveraineté nationale. Il y a d'autres type de souveraineté. On peut avoir une souveraineté locale, on peut avoir une souveraineté européenne.
On peut
avoir différentes échelles de souveraineté. Un individu peut avoir plusieurs identités. Un citoyen peut exercer souverainement sa souveraineté citoyenne à différentes échelles. L'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne.
Tout dépend comment est construite cette constitution
maintenant de la souveraineté.
Si
on va revenir.
Bien sûr, c'est une question de démocratie, c'est une question de périmètre.
J'aimerais entendre votre analyse, Brice Couturier, puisque vous disiez tout à l'heure qu'au début de son quinquennat, Emmanuel Macron imposait son agenda, il ne suivait pas ce qui lui était imposé par les médias. Pourquoi aujourd'hui subit-il le tempo médiatique? Pourquoi est-il obligé de s'exprimer sur des sujets de politique intérieure depuis l'étranger? De se désavouer par exemple en disant que lorsqu'il parlait des Gaulois, il avait fait une boutade?
C'est quand même pathétique de devoir, depuis l'étranger, expliquer qu'on a dit les Gaulois, mais que ça, c'est pas méchant envers les Français.
Mais alors, comment expliquez-vous?
Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est en train de perdre la main. Et ça me désole. Parce qu'effectivement, on a besoin d'un pilote dans l'avion. On en avait
Il perd la main parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se défaire dans le pays et dans sa politique.
Parce que je pense que l'effet de sidération qu'il a exercé sur les médias pendant un certain temps, qui ont été totalement désarmés par la puissance de feu du personnage, aujourd'hui, les médias reprennent la main. Et le fameux parti des médias, en particulier, reprend la main. Mais vous verrez, ça durera pas.
Mais ce ne sont pas les médias qui font les grands rapports de force politiques et économiques. Quand Emmanuel Macron parle du Danois, le peuple luthérien qui accepte les réformes alors que le Gaulois est réfractaire, il essaye de faire croire qu'il est l'homme du changement du nouveau monde. Or, ce qu'a montré Nicolas Hulot en démissionnant, c'est qu'Emmanuel Macron était l'homme de l'immobilisme, c'est-à-dire de ce monde totalement rigidifié par une orthodoxie budgétaire qui oublie la capacité d'investissement, par des lobbies qui confisquent le bien commun au nom d'intérêts privés. Ça s'appelle de l'immobilisme, ça s'appelle pas du changement.
Brice Couturier.
Natacha Polony, ce qui compte aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde quand je parlais des grands courants de fond? Qu'est-ce qu'est le grand courant de fond aujourd'hui? C'est la lutte pour le leadership mondial entre les États-Unis et la Chine. Face à cela, qu'est-ce que représente l'Europe état par état? Qu'est-ce que représente le Luxembourg ou la Belgique? Excusez-moi, mais nous sommes des nains. Si nous voulons peser dans ce formidable affrontement qui a lieu en ce moment planétaire entre ces deux puissances, nous devons être unis autour de l'Europe.
Je suis entièrement d'accord. Quelle Europe? Une Europe souveraine? Une Europe indépendante des États-Unis?
Une Europe souveraine et indépendante des États-Unis?
Qui ne délègue pas sa défense à l'OTAN?
Mais bien sûr, c'est ce que Macron vient d'expliquer aux ambassadeurs cette semaine. Bien entendu.
Oui, mais qu'il le fasse.
Mais Raphaël,
et il ne peut pas le faire avec sa politique économique.
Juste pour répondre à la question que Ali Badou avait posée.
Merci.
En amont.
Merci Raphaël.
Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, je suis un peu faillot.
C'est pas bien
voir du professeur à la rentrée. Pourquoi tout d'un coup, il semble devoir répondre à l'agenda médiatique? Mais parce qu'on se rend compte qu'au fond, cet homme qui veut absolument s'inscrire dans l'histoire, manque fondamentalement d'ambition politique. Il a un problème de projet politique. Et donc, c'est surprenant. Et en même temps, ça veut dire qu'il s'empêche d'avoir un programme cohérent qui peut tenir sur 5 ans. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en bout de course. Il a plus.
Déjà?
Non, mais il, ben oui. Et il répond aux interjections des médias. Mais s'il veut faire autre chose, il faut qu'il restaure la capacité du politique à transformer la société, à changer le cours des choses. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous vend? Il nous vend l'adaptation au monde. Mais on n'a pas besoin de politique pour ça. Alors à la limite, on laissons les choses se faire naturellement, puisque on ira vers plus de libéralisme, on ira vers plus d'individualisme si on laisse les choses se faire.
Je vais répondre à tous les deux en même temps, parce que je suis en désaccord total avec ce que vous venez de dire. La réalité, c'est que si Macron n'arrive pas à impulser le mouvement qu'il souhaite pour l'Europe, c'est que la France se trouve aujourd'hui, et ça aussi c'est très mal analysé par les médias, en position extrêmement faible en Europe. Nous sommes très isolés. Macron est en réalité très isolé en Europe. Et pourquoi il est isolé? Parce que la France ne tient pas son cap sur le plan budgétaire. Parce que la France continue à être le mauvais élève de l'Union européenne. Parce que la France, qu'on va continuer l'année prochaine à avoir près de 3% de déficit budgétaire.
Et il en
budgétaire.
Est responsable, selon vous?
Mais bien sûr, non, parce que son budget n'est pas bon.
Brice Couturier, depuis un an, Emmanuel Macron s'est efforcé de donner des gages sur ce plan-là, en espérant obtenir quelque chose, un assouplissement de la part d'Angela Merkel, sur tout ce qu'il espérait construire, c'est-à-dire une forme de souveraineté européenne. Il n'a rien obtenu. C'est-à-dire que ce que vous prenez là, l'idée qu'on va respecter l'orthodoxie budgétaire exactement comme il faut et qu'en échange, on nous déléguera une petite place en Europe, c'est la politique qui est suivie depuis 30 ans et on voit à quoi ça aboutit. C'est-à-dire que l'Europe ne fonctionne pas politiquement, est un impolitique et est totalement soumise à une forme de gouvernance délirante qui en fait la zone la plus ouverte au monde, qui se désindustrialise, qui détruit son agriculture.
Mais non, écoutez, regardez autour de nous, les Danois, les Allemands, les Hollandais s'en sortent très très bien sur le commerce mondial.
Les Danois ne sont pas dans l'euro. Hein.
Il faut sauver le soldat Macron.
Une bonne partie. Bah, bien sûr, mais il va sauver tout seul, vous en faites pas pour lui.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Dernier temps de l'émission avec un nouveau rendez-vous, puisque chaque samedi, Natacha et Raphaël, vous nous conseillerez un livre, un film, une expo, et nous demanderons aussi à nos invités de jouer le jeu avec vous. Et c'est le hasard, Raphaël et Brice Couturier, vous avez choisi le même livre, Le peuple contre la démocratie. C'est signé Yasha Munk, il est politologue, professeur à Harvard. Pourquoi ce livre, Brice?
Bah écoutez, moi j'ai été le premier à en parler en France sur les antennes de France Culture pendant une semaine. J'ai fait une chronique entière consacrée à un bouquin celui-là qui vient d'être traduit en français, et aussi des deux articles qu'il avait publiés dans Journal of Democracy, parce que ça me semblait absolument remarquable. Je veux juste dire que Yasha Munk n'est pas tout seul à raconter ce qu'il dit. Il y avait aussi Edward Luce avec The Retreat of Western Liberalism et David Goodhart, qui doit beaucoup plaire à Natacha, The Road to Somewhere, The Populist Revolt and The Future of Politics. Ces trois livres disent la même chose à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un divorce entre démocratie et libéralisme, entre les gens de partout et le peuple de quelque part.
Exactement, et c'est un moment enfin aux États-Unis, parce qu'il y a eu un grand débat autour du livre de Munk, c'est le moment où la gueule de bois prend fin et où les élites américaines commencent à réfléchir sur comment ça a été possible. Comment on peut avoir Trump au pouvoir? Et ce qui est extraordinaire avec Munk, c'est que c'est pas simplement un Américain, c'est un Allemand et un Américain.
Polonais juif d'origine.
Voilà, et que donc, il peut donner une dimension complètement occidentale à la crise que traversent les démocraties libérales. Et il y a quelque chose qui plaira à Natacha, c'est par exemple cette description d'un meeting de l'AFD à Offenburg, où il arrive et il s'attend...
C'est parti d'extrême droite allemand.
Voilà, exactement. Et il s'attend à une enfilade de clichés xénophobes complètement délirants. Et il se rend compte que Frauke Petri, qui est la leader de l'AFD, eh bien fait un grand discours sur la démocratie. Et là, il est pris de stupeur et il se dit, il y a quelque chose qui fondamentalement ne fonctionne pas chez nous, les élites libérales, et qui fait que nous sommes coupés du peuple. Et c'est un exercice d'introspection et de réflexion qui, à mon avis, est salutaire et que je conseillerais à toutes nos élites françaises de lire.
Natacha. Oui, et en effet, ce passage-là est intéressant, mais disons qu'il faut pas, il faut avoir à l'esprit quand on le lit qu'il écrit tout de même d'un point de vue qui est un point de vue occidental. Et la question que nous devons nous poser, nous, Français, c'est est-ce que l'Occident, ça existe? C'est-à-dire que quand nous parlions tout à l'heure de la différence entre la République et la démocratie libérale, justement, c'est quelque chose qui doit être ajouté
ajouter à cette réflexion. Parce qu'il y a différentes formes de démocratie, différentes organisations qui ne doivent pas, qui ne sont pas les mêmes. Et on le voit sur le débat sur la laïcité, sur le multiculturalisme. Et deuxième point, la différence entre libéralisme et néolibéralisme est largement occultée. C'est-à-dire qu'on fait comme si on oublie les dérégulations depuis 40 ans qui sont...
Non, il n'oublie pas, il en parle beaucoup.
Il en parle, mais il n'en parle, mais il fait comme si c'était la logique absolue du
libéralisme. Et non, mais surtout, qui serait peut-être des lecteurs.
Différence en Occident, mais cette crise-là, elle va de la Pologne, la frontière orientale de la Pologne à la côte ouest des États-Unis, il y a la même crise.
Donc, et c'est peut-être la réponse à la globalisation néolibérale d'un point de vue économique et culturel.
Notamment. Le peuple contre la démocratie, le peuple contre la démocratie. Vous savez que c'est difficile d'animer des débats, Brice Couturier, surtout quand vous avez des intervenants intenables. Vous avez connu l'exercice à France Culture avec du grain à moudre. « Le peuple contre la démocratie » de Yascha Mounk. Nous vous le conseillons donc chaleureusement, en tout cas Brice Couturier et Raphaël Glucksmann. Vous, Natacha, c'est aussi un livre, L'ami américain d'Éric Branca.
Oui, L'ami américain, Washington contre De Gaulle, 1944-1969. Ça reprend d'ailleurs un petit peu les thématiques que nous avons abordées. Pourquoi ? Parce que Éric Branca nous raconte que la définition du mot ami, elle n'est pas exactement la même des deux côtés de l'Atlantique. Et que finalement, face à un De Gaulle qui a toujours été là au moment difficile, au moment de la crise de Berlin, au moment de la crise de Cuba, qui a toujours été du côté des États-Unis, eh bien en revanche, il a été en permanence déstabilisé par les services secrets, par une CIA qui essayait d'agir et de l'affaiblir, par le fait que certains hommes politiques étaient rémunérés. Éric Branca met en place tout. Il faut raconter l'épisode du traité de l'Élysée de 63 et comment Adenauer a été cassé au sein de son propre parti. Pourquoi ? Parce qu'il avait accepté la vision de De Gaulle d'une défense européenne indépendante. C'est-à-dire qu'on relit toute l'histoire du XXe siècle à travers ce livre. Il est allé fouiller toutes les archives, il est allé rencontrer les derniers acteurs, c'est passionnant.
L'ami américain d'Éric Branca, et puis, je rappelle, Macron, un président philosophe, c'est de vous, Brice Couturier, aux éditions de l'Observatoire. Toutes les références sont évidemment sur le site de l'émission. Émission qui se termine. Merci d'avoir joué le jeu du débat avec nous, Brice Couturier. Natacha, Raphaël, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, Fabrice Lègle, à la technique, Renan Mahé. À suivre après le journal Secret d'Info avec Jacques Monin. Et je vous rappelle que vous retrouverez la preuve par Z de Jean-François Zigel à 17h. Et je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques.